Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour, la relation franco-algérienne sous le prisme notamment des massacres de mai 1945 à Guelma, Sétif et Kerata. Notre invité, Benjamin Stora, historien, grand spécialiste de l'histoire de l'Algérie. Vous avez notamment écrit avec Thomas Negaroff France-Algérie, anatomie d'une déchirure aux éditions Les Arènes. Vous êtes aussi l'auteur de L'Algérie en guerre, une histoire face au torrent des images aux éditions de l'Archipel, où vous venez de rentrer d'Algérie, où vous avez notamment plaidé pour une ouverture totale des archives françaises aux chercheurs algériens. Nous y reviendrons. Bonjour, Benjamin Stora.
Bonjour.
Alors, il y a 81 ans, les répressions sanglantes ont suivi les manifestations nationalistes, indépendantistes et anticolonialistes du 8 mai 1945 dans le Constantinois. C'était bien entendu pendant la colonisation française de l'Algérie. La répression a duré plusieurs semaines. Ces massacres, tout simplement, ont-ils lancé le compte à rebours vers la guerre d'indépendance, vers la guerre d'Algérie qui a débuté près de 10 ans plus tard, le 1er novembre 1954 ?
Incontestablement, les massacres de mai-juin 1945, qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts en Algérie, ont joué un rôle très important dans la prise de conscience politique, notamment dans la jeune génération, sur le fait d'en finir avec le système colonial, de sortir du statu quo colonial, et une nouvelle génération va entrer en scène, notamment à l'intérieur de la principale formation politique nationaliste, le PPA-MTLD, et ces jeunes militants, dont les plus connus ont pour nom Hossein Aït Ahmed ou Ahmed Ben Bella, vont animer une organisation clandestine, l'organisation spéciale qui sera créée en 1947, 2 ans après les massacres, parce que, effectivement, pour la jeune génération qui a été profondément traumatisée, marquée par ces épouvantables massacres de mai-juin de l'été 1945, eh bien, il faut sortir, disons, du statu quo et de la situation.
Pourquoi les espoirs d'émancipation ont-ils redoublé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et à l'issue de la victoire sur les nazis ?
Bien d'abord parce que beaucoup de soldats venant d'Algérie ont combattu pour la libération de la France contre le nazisme, ont participé notamment à la campagne d'Italie, on se souvient notamment de leur participation à la terrible bataille de Monte Cassino en Italie. Ils ont participé à la libération de Marseille, et ils sont remontés ensuite le long de la vallée du Rhône jusqu'en Allemagne pratiquement, et plusieurs milliers d'entre eux qui ont participé à cette guerre contre le nazisme ont été profondément surpris, choqués, lors de leur retour en Algérie, dans le fait qu'il y avait un refus de prendre en compte, disons, les aspirations démocratiques du peuple algérien. Non seulement il y avait cette non-prise en compte, mais il y avait des massacres qui étaient perpétrés, notamment dans le Constantinois. Donc il est bien évident qu'il y a cet aspect-là, c'est-à-dire de la déception entre la bataille livrée contre le nazisme et la non-réalisation des promesses. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'un an auparavant, s'était créée une organisation politique qui s'appelle les Amis du Manifeste et de la Liberté, les AML, qui a été créée en 1944 et qui regroupait l'ensemble des formations politiques se réclamant du nationalisme algérien, donc les AML, animés par les principaux grands dirigeants nationalistes de l'époque, c'est-à-dire Messali Hadj, bien sûr, mais aussi Ferhat Abbas, mais aussi le mouvement des Aoulema, mais aussi les communistes algériens. Et tous ces courants s'étaient regroupés et les AML avaient près de 100 000 adhérents en 1944, ce qui fait que les manifestations du 1er mai, puis du 8 mai 1945, avaient été redoutées par les partisans de la colonisation, compte tenu de la puissance de cette organisation politique qui s'était manifestée pendant plusieurs mois auparavant.
Messali Hadj, que l'on retrouve bien entendu dans votre ouvrage « Algérie, anatomie d'une déchirure » aux éditions Les Arènes. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler qui était cette grande figure pionnière de l'idée d'indépendance algérienne? Il est d'ailleurs souvent présenté comme le père du nationalisme algérien.
Bien précisément, Messali Hadj a été une des grandes figures du nationalisme algérien, dont on fête cette année d'ailleurs le centenaire de la naissance. J'étais moi-même la semaine dernière en Algérie, où a été organisé à l'université de Béjaïa un très grand colloque international pour commémorer le centenaire de la naissance de l'étoile nord-africaine, qui a été créée donc en 1926. Et Messali et ses compagnons, d'autres noms, comme Imash Amar, Adjef Belkacem ou autres, effectivement, ont lancé la première organisation qui a revendiqué l'indépendance de l'Algérie. C'est pour ça que Messali était une très grande figure, a été arrêté plusieurs fois en 1934, son organisation a été plusieurs fois dissoute par les autorités françaises en 1929, en 1937, lui-même a refusé la collaboration avec le régime de Vichy, et lorsque va éclater la Deuxième Guerre mondiale, il sera envoyé au bagne de Lambèze, hein, pour refus de la collaboration. Donc il est évident que les manifestations qui ont lieu en mai 1945 ont pour objectif la libération de Messali Hadj.
Et sauf erreur de ma part, il a pour la première fois prononcé le mot indépendance en public en 1936.
Exactement, c'était en 1936, mais cette fois-ci en Algérie et non plus simplement en France, à Paris, lorsqu'il s'est rendu au stade d'Alger où a été organisé le congrès musulman algérien. Et là, devant la foule rassemblée, il a pris une poignée de terre et il a dit « Cette terre est à nous, nous ne la vendrons à personne », qui a lancé cette formule très célèbre qui est en Algérie et qui a lancé l'organisation politique indépendantiste, l'Étoile nord-africaine.
Vous avez célébré cet anniversaire depuis Béjaïa, en Algérie, dans la région de la Kabylie. Vous êtes aussi rendu à Annaba, où vous avez plaidé pour une ouverture totale des archives françaises aux chercheurs algériens. La bataille de la mémoire ne pourra aboutir sans une volonté sincère de lever le secret sur les dossiers les plus sensibles. C'est ce que vous dites. Quels sont aujourd'hui ces dossiers?
Il y a plusieurs dossiers qui ont été ouverts aussi. Il y a déjà des thèses qui ont été soutenues. Sur la justice, sur la torture, sur les refus de guerre. Donc il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits sur les photographies, sur les images de la guerre d'Algérie, etc. Mais il y a encore ce qu'on pourrait appeler des dossiers sensibles, grosso modo, qui touchent deux, trois aspects. D'abord les disparus, c'est-à-dire les disparus algériens, notamment ceux de la bataille d'Alger, mais également la question de ce qu'on a appelé la guerre des grottes, c'est-à-dire l'utilisation d'armes chimiques, pendant notamment le plan Chal en 1959 dans l'Est constantinois, et puis aussi les essais nucléaires qui ont eu lieu à partir de 1960, qui se sont déroulés plusieurs années, y compris après l'indépendance de l'Algérie. Sur ces dossiers-là, il y a une grande difficulté d'accès aux archives. Il faut préciser que ces archives sont encore très largement contrôlées, organisées par l'armée française. Ce ne sont pas des archives qui sont comme ceux déposés à Aix-en-Provence, par exemple. Ce sont ce qu'on appelle des archives déposées au service historique de l'armée de terre. Et là, il y a déjà un certain nombre de chercheurs, d'historiens, français ou algériens, et qui demandent précisément que ces archives soient non seulement ouvertes, bien sûr, mais qu'elles ne restent pas entre les mains, disons, des militaires, mais qu'elles soient civiles, qu'elles soient ouvertes à tous les chercheurs.
Benjamin Stora, vous êtes historien, vous êtes aussi un fin observateur de la vie politique en France, vous qui œuvrez pour la réconciliation entre la France et l'Algérie. Vous portez quel regard sur la place que rend l'Algérie aujourd'hui, notamment dans le débat présidentiel qui vient de commencer?
L'Algérie a pris une place malheureusement très importante pour une certaine partie de la classe politique française, notamment située à droite et à l'extrême droite, qui a décidé d'en faire une sorte d'objet de mémoire très particulière, j'allais presque dire de revanche. C'est un thème de campagne qui s'est installé progressivement à travers une série de propositions comme par exemple la révision des accords d'Évian, ou bien la révision des accords de 68, et puis toute une série d'aspects touchant la vie quotidienne des immigrés algériens en France. On a le sentiment effectivement que 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, cette plaie n'arrive pas à se cicatriser à l'intérieur de la société française. Mais ce qu'on peut observer, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que dans la droite républicaine française, il y avait quand même cet héritage du gaullisme à défendre, qui était celui du passage à la décolonisation. N'oublions pas quand même le rôle qu'a joué le général de Gaulle dans ce passage à la décolonisation. Or, le problème, selon moi, c'est qu'une fraction très importante de cette fameuse droite républicaine française d'origine gaulliste a glissé sous la pression de l'extrême droite vers, des positions qui seraient celles carrément de l'antigaullisme. Et c'est ça qui est dangereux et qui provoque aussi un accroissement, une puissance de l'extrême droite française qui n'a jamais caché son anti-gaullisme depuis pratiquement la guerre d'Algérie. C'est l'ADN de l'extrême droite française, l'anti-gaullisme. Il y avait Vichy, bien sûr, dans le refus de 1940 du général de Gaulle, mais n'oublions pas que cette même extrême droite avait voulu tuer le général de Gaulle au moment de la fin de l'Algérie française.
Donc lorsque vous parlez de cette dérive des personnalités issues de la droite républicaine, vous pensez, j'imagine, aux prédécesseurs de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, sénateur Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle.
Malheureusement, il y a plusieurs dirigeants politiques appartenant à ce qu'on appelle la famille gaulliste, qui ne se situe pas dans l'héritage du gaullisme.
Si je vous posais cette question et si je faisais référence à Bruno Retailleau, c'est parce que aujourd'hui, l'on ressent une forme de début d'amélioration des relations entre les deux pays depuis l'arrivée de Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur.
Incontestablement, il y a des frémissements au niveau des rapports, des relations franco-algériennes, mais vous savez, les choses vont être difficiles quand même. Elles vont être difficiles parce que les Algériens s'étaient engagés profondément au moment notamment de la reconnaissance par la France des assassinats de Maurice Audin, de Ali Boumendjel, de Larbi Ben Midi, qui était dirigeant du nationalisme algérien. Donc franchement, on a cru, notamment à la suite du rapport que j'avais remis au président de la République en janvier 2021, que les choses allaient s'arranger. Et en fait, la déception n'en a été que plus forte, plus grande, et donc les choses vont être difficiles à régler de manière régulière, normale et instantanée. Donc il y a des frémissements, il y a des reprises de contact qui commencent à s'opérer, notamment sur les questions sécuritaires et sur les questions migratoires, mais sur les questions mémorielles, il va falloir reprendre, disons, tout ce travail, tout ce chantier mémoriel qui, malheureusement, a été interrompu. Il faut le dire normalement, carrément.
Vous faites état du rapport que vous avez mené, ce travail de mémoire. Un tel travail sur la question mémorielle entre la France et l'Algérie avait-il déjà été mené sous la Ve République ?
Pas à ma connaissance à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une série de mesures de préconisations réalisées. J'ai parlé tout à l'heure de Maurice Audin, qui avait été enlevé et assassiné, dont le corps n'a jamais été retrouvé. La reconnaissance par la France de l'assassinat de Ali Boumendjel, de Larbi Ben Midi, mais également la reconnaissance par la France des massacres du 17 octobre 1961 à Paris, et d'autres mesures qui avaient été prises, d'autres réalisations. Donc, a été réalisé dans l'année 21-22 plus qu'en 60 ans, je veux dire, de reconnaissance. Mais c'était un démarrage. Et d'ailleurs, la commission mixte des historiens français et algériens qui s'était mise en place devait démarrer. En fait, nous avions des premières mesures. C'est un énorme chantier, vous savez, que j'ai essayé d'expliquer aussi dans le livre qui vient de sortir. Vous avez mentionné aux éditions Les Arènes, Anatomie d'une déchirure, 132 ans de colonisation française, cette question ne peut pas se régler de manière rapide et instantanée par un seul discours ou un seul geste. Il va falloir effectivement mettre en œuvre tout un processus de reconnaissance de différentes choses qui passe aussi, par exemple, sur la question des restitutions. Des archives, des objets, etc. etc.
Avec des sources de tensions qui persistent, on pense notamment à la condamnation, à l'emprisonnement du journaliste français Christophe Glaise. Vous faites partie des personnalités qui ont publiquement appelé à la libération du journaliste sportif, le collaborateur des médias Society et SoFoot, condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie. Il a renoncé à son pourvoi en cassation. Comme toutes les personnes qui le soutiennent, j'imagine que vous souhaitez vous demander une grâce présidentielle.
Tout à fait, je me suis engagé avec les parents de Christophe Glaise que je rencontrais, que je connais très bien, qui sont des amis de l'Algérie d'ailleurs. Il faut vous le signaler, il faut souligner cette question-là. Et effectivement, je suis pour la libération de Christophe Glaise en espérant une grâce présidentielle du président algérien Abdelmajid Tebboune qui doit, j'espère, intervenir rapidement. Ça fait maintenant que Christophe Glaise est arrêté depuis 2025, donc ça, le temps passe et ça permettrait effectivement un apaisement des relations entre la France et l'Algérie, enfin, c'est ce que je pense.
Un grand merci, Benjamin Stora, historien, grand spécialiste de l'histoire de l'Algérie. Vous avez notamment récemment écrit avec Thomas Negaroff « France-Algérie, anatomie d'une déchirure » aux éditions Les Arènes. Vous êtes aussi l'auteur de « L'Algérie en guerre, un historien face au torrent des images ». Merci beaucoup Benjamin Stora, merci à vous chers auditeurs et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.